Chiffre à 157. 157 candidats vaccins contre le Covid-19 sont actuellement à l'étude dans le monde, dont 11 sont déjà entrés en phase d'essai clinique, notamment en Angleterre, en Chine ou aux États-Unis. Alors Nathalie Ernoux, est-ce qu'il faut voir dans ces chiffres spectaculaires un effet de communication des labos ou une rapidité exceptionnelle des chercheurs dans cette histoire ?
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches. Moi, j'étais plutôt à une centaine. On en a à peu près entre 8 et 10 qui rentrent en essai clinique. C'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir en fait plusieurs pistes de travail. Donc, en ce sens, c'est intéressant. Maintenant, on verra quel est le ou quels sont les vaccins qui sortiront, entre guillemets, vainqueurs de cet exercice de recherche. Et bien évidemment, comment ils seront accessibles. Et je pense qu'on va en parler.
Bah justement, on va arriver au coup, Catherine Ducruet, très simplement. Combien coûte un vaccin et qui le finance?
Alors, développer un vaccin en temps ordinaire, ça coûte 1 milliard de dollars à peu près. C'est comme un médicament. Ça prend 7 à 10 ans. C'est financé par le laboratoire lui-même entièrement. Alors maintenant, dans une situation comme celle d'aujourd'hui, bon, on peut avoir un coup de pouce.
Coup de pouce de qui?
Un coup de pouce des États. Ou un coup de pouce de fondation non lucratif, voilà. Alors après, si on pense à l'accord avec Sanofi, on ne sait pas en fait ce qu'il y a dans cet accord parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient travailler avec le BARDA, mais on n'a pas le contenu de l'accord.
Le BARDA, c'est la fédérale américaine
C'est ça, oui. Et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de l'accord, s'il y a... un échange de quoi que ce soit. A priori, ils financent. Et puis, bon, on ne sait pas ce qu'il y a d'autre, quoi.
D'accord.
Et on ne sait pas combien. Ouais.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur la question, en tout cas, de la pandémie, qui est mondiale, il y a eu des déclarations qui ont été faites par le G20, puis des déclarations, le lancement de l'accélérateur sur l'innovation qui a été lancé et facilité par l'OMS, puis une campagne de levée de fonds organisée au niveau de l'Union européenne pour 8 milliards, dont près de la moitié vont aller au vaccin. Ce qu'il faut voir, c'est que très souvent, la recherche fondamentale, en tout cas, est largement financée par des fonds publics, voire philanthropiques. Et on a comme ça des investissements qui se font tout au long du parcours de la recherche jusqu'à son développement. Et en particulier dans le cadre du Covid, en l'occurrence, il y a énormément d'argent public. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'avoir un vaccin qui ne soit pas un bien public mondial, dans la mesure où ce n'est pas du tout l'investissement qui est fait par l'industrie pharmaceutique. Mais par contre, l'industrie, elle, cherche effectivement à récupérer un maximum d'argent public, joue la question du chantage, ce qu'on a vu exactement se produire avec Sanofi, entre les Américains et les Européens pour essayer de récupérer des financements pour la recherche sur ce vaccin.
Catherine Ducruet, on peut faire la part entre l'apport du public et du privé ou, comme le disait Nathalie Ernoux, c'est un apport public tel que c'est un bien public, le vaccin?
Il y a la partie recherche fondamentale qui, effectivement, est beaucoup financée, qui se passe d'ailleurs pas dans les labos pharmaceutiques, qui se passe dans la recherche académique, qui ensuite, souvent, est transférée à des petites sociétés de biotechnologie qui prennent le risque initial, quand même. Et puis, souvent, après, la société de biotech, elle va être achetée par un grand labo. Par exemple, Sanofi... le vaccin qu'ils développent, c'est parce qu'ils ont racheté une start-up américaine qui développait une certaine technologie, qui avait déjà développé un vaccin contre le SRAS, qui n'a pas pu aller au bout parce qu'en fait l'épidémie s'est arrêtée, donc on n'a pas pu le tester chez l'homme. Et c'est d'ailleurs probablement à partir de ce vaccin qu'ils ont eu une certaine avance pour pouvoir... disons, avoir un atout pour s'engager dans cette course.
Nathalie Ernoux, une question à propos de l'Europe. Comment se fait-il que l'Europe n'ait pas réussi à avoir une vision commune et une action commune quant à la recherche biomédicale? Comment se fait-il que l'Europe ne se soit pas positionnée?
En fait, l'Europe s'est positionnée en termes de autour de l'accélérateur de l'OMS et se positionne dans le cadre de la solidarité que tente de pousser l'OMS.
Pourquoi a-t-on l'impression que ça n'est pas assez ou que c'est trop tard?
Je ne sais pas si c'est pas assez. En tout cas, c'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, parce que c'est vrai que l'OMS n'a pas de capacité contraignante vis-à-vis des États. En revanche, les États donateurs qui investissent de l'argent, eux, ont une capacité à installer, à mettre en place des conditions qui soient liées à leur financement, notamment des conditions sur les questions d'accès. Et l'accès, c'est pas seulement le prix, c'est effectivement le développement, mais c'est aussi la production. Et comme vous l'avez dit, on aura besoin d'avoir un volume assez important de doses de vaccins. Et pour réaliser cet exercice-là, plus ou moins simultanément, il va falloir multiplier les investissements en matière de capacité de production.
Vous connaissez la phrase du général de Gaulle, l'un des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Catherine Ducruet, est-ce qu'il est possible qu'on ne trouve pas de vaccin du Covid-19 et que tous ces investissements aient été faits en vain?
Alors, c'est possible, oui. Quand même, c'est un virus qui est moins compliqué que le virus du sida. Donc, on a quand même bon espoir que, vu tous les efforts entrepris, on trouve un vaccin, d'autant plus qu'on a dit qu'il y avait plus d'une centaine de projets. Il y a aussi 10 approches vaccinales différentes qui sont testées. Donc, dans toutes ces approches, il devrait quand même y en avoir qui aboutissent à quelque chose. Aujourd'hui, on a eu les premiers résultats de phase 1, c'est-à-dire la première administration à l'homme, du vaccin de la société américaine Moderna. Et ils sont encourageants. Donc, c'est quand même l'indice que, bon, c'est pas sûr que ce sera ce vaccin-là, mais...
Nathalie Ernoux, le délai, on a une idée, on entend 18 mois...
Voilà, c'est à peu près ce qu'on dit. Donc, c'est vrai que pour certains des vaccins, compte tenu de la technologie utilisée, il y a des technologies qui sont éprouvées et pour lesquelles on a des points de référence pour valider, en fait, la mise sur le marché d'un vaccin, et d'autres pour lesquelles les technologies sont moins éprouvées, pour lesquelles ça prendra un peu plus de temps sur un plan réglementaire.
Alors, une fois qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qu'il faut comme temps pour le produire afin que toute l'humanité, ou en tout cas les personnes, parce qu'on ne va peut-être pas piquer tout le monde, vous allez nous le dire, les personnes les plus vulnérables puissent en bénéficier?
Ça va dépendre des investissements sur la capacité de production et de la libération de la propriété intellectuelle.
C'est toute c'est la question. C'est ça, la question.
Et c'est ça, la question qui est au centre aujourd'hui, notamment avec les investissements publics, c'est est-ce qu'on va partager le savoir-faire, partager, on va dire, le modèle pour pouvoir le produire.
Et, ou est-ce que quelqu'un va conserver le brevet?
Voilà, conserver le brevet et autoriser différentes, dans différents lieux géographiques, là où il y a déjà de la capacité à produire des vaccins, de lancer la production. Et en lançant une production un peu multicentrique, on aura suffisamment de doses pour, effectivement, en premier chef, vacciner le personnel médical et les personnes à risque.
Et si jamais, Catherine Ducruet, mettons, un labo allemand trouve le vaccin, ça sera les Allemands qui en bénéficieront en premier. On se paye un peu de mots quand on dit que... Quand on dit,
ça, non, je crois pas. Non, non, je pense pas. De toute façon, c'est pas un pays qui trouve le vaccin. Oui. C'est une entreprise.
C'est une entreprise.
Et les entreprises, elles sont complètement multinationales. Avec, elles se raccrochent un peu à un territoire. Mmh. Mais enfin, Sanofi, c'est un groupe théoriquement français. C'est quand même un groupe qui est extrêmement international aujourd'hui. Ils emploient plus de monde dans les pays émergents qu'en France, par exemple, ou même en Europe. Donc, ça, c'est pas un pays qui trouve ou qui invente et qui met l'argent dans sa poche. C'est
Et Nathalie Ernoux, est-ce qu'on a un exemple d'épidémie qui donne lieu à la découverte d'un vaccin et ce vaccin est diffusé tel qu'on voudrait qu'il le soit pour le Covid-19 à l'échelle de la planète?
On a eu le vaccin contre la polio qui a été largement utilisé et dont d'ailleurs le chercheur créateur avait décidé qu'il n'y avait pas de brevet sur
sa propriété intellectuelle
en disant ça appartient à tout le monde, ce qui fait un peu l'objet.
Aujourd'hui, ça serait envisageable? Avec les enjeux économiques, vous dites que le Big Pharma, c'est aussi rentable quasiment que l'industrie pétrolière. Ça serait envisageable qu'un chercheur qui trouve le vaccin dise « je veux libérer la propriété intellectuelle de ce vaccin »
Aujourd'hui, ce n'est pas un chercheur.
C'est un groupe.
Ce sont des équipes et ce n'est pas un brevet, c'est
donc
une
on a
famille
changé
de brevets.
C'est ça que vous êtes en train de
donc
dire.
C'est pas, il ne suffit pas d'avoir un petit bout pour tenir.
D'où l'importance d'avoir accès à ces contrats qui sont passés aujourd'hui avec les financements publics, donc c'est-à-dire avec vos impôts et les miens, en l'occurrence. Qui vont être transférés en direction d'un certain nombre d'entreprises et pour lesquelles on demande d'avoir une transparence sur les contrats, une transparence sur les données et une gouvernance ouverte. Et je pense qu'on ne s'en sortira pas sans une gouvernance qui soit beaucoup plus inclusive, y compris des pays récipiendaires et de la société civile.
Mais bon, le président Trump est dans une logique assez prédatrice. Il voulait acheter le Groenland donc, aux Danois. Mais donc, pourquoi il n'essaierait pas d'acheter une entreprise allemande comme il a tenté de
le faire. Il a tenté de le faire et Angela Merkel a protesté.
Ou s'approprier un vaccin pour lui.
Mais néanmoins, en fait,
on peut tout acheter. Donc,
ça met en lumière le fait que ce sont des stratégies et que ça permet à un pays de rayonner et d'asseoir son influence, n'est-ce pas ?
C'est un élément de puissance, quoi.
Bah, c'est un élément de... Oui, je pense que les élections qui viennent... Il a envie de les gagner et que c'est une des choses qu'il pourra faire valoir si jamais les États-Unis peuvent bénéficier rapidement d'un vaccin.
Élément de puissance, mais peut-être aussi élément d'isolement. Parce qu'en fait, les États-Unis aujourd'hui sont quand même relativement isolés dans cette posture. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique, ils peuvent, ils essayent de négocier et que celui qui va trouver sera, en tout cas pour le rayonnement de son pays, sera assez fier de ça. Mais il y a quand même une logique, une volonté d'essayer de s'en sortir tous ensemble. Et je trouve intéressant que l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé aujourd'hui, on a vu ce qui est assez rare en fait, des chefs d'État venir prendre la parole, dont le président français. Et on se rend compte et on voit très bien que de nombreux pays sont quand même dans cette volonté. Alors c'est vrai qu'on en est on est au niveau du discours, il va falloir le traduire dans les actes, mais il y a un mouvement qui est en train de se constituer autour de cette idée-là.
Notion de solidarité et de multilatéralisme.
Et de multilatéralisme.